Philippe vous présente Alternative, une semaine sur deux, le vendredi à 17h, en alternance avec le samedi à 13h. Il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Ah ah, de la franc-maçonnerie. C'est une société qui a toujours intrigué, qui a toujours été interdite sous les régimes totalitaires. Bah, pensez donc, tous ces gens qui se cachent, ils doivent bien avoir des raisons. Ils doivent avoir des choses pas claires. Ils passent leur temps à comploter en douce, ils noyautent la politique, la finance. La franc-maçonnerie, c'est comme un genre de pieuvre qui s'insinue partout. Régulièrement, les journaux font sur la franc-maçonnerie la première de couverture avec, on appelle ça des marronniers, avec des articles sur les équerres, les compas, les cordons bleus, les cordons rouges, avec des articles plus ou moins croustillants. On se jette dessus pour savoir qui en est, qui n'en est pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans les loges ? Et on ne sait rien, on ne sait pas et on dit des âneries. Alors la franc-maçonnerie, c'est d'abord une vieille dame qui est née au XVIIIe siècle, en 1717, sous l'impulsion d'un scientifique également pasteur d'origine française, Jean-Théophile Desaguliers, et dont les parents avaient émigré en Angleterre à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. C'était donc un protestant. Ce pasteur, donc ami de Newton, était aussi un remarquable vulgarisateur et cherchait un moyen de lutter contre les mœurs politiques dissolues de l'époque dans une Angleterre déchirée par les querelles dynastiques. Alors il lui fallait une organisation qui diffuse ses idées. Depuis quelque temps, il faut savoir que les corporations de bâtisseurs recevaient des hommes appelés maçons acceptés, qui n'avaient rien à voir avec le métier de bâtisseur, mais qui discutaient de philosophie avec les maçons et qui pratiquaient l'entraide à une époque où la protection sociale n'existe pas. C'était en quelque sorte des sociétés de secours mutuels. Alors on ne sait pas comment les loges spéculatives, on dit spéculatives parce que ce ne sont pas des loges des corporations de métiers, mais des loges qui parlaient de problèmes philosophiques. Donc on ne sait pas comment les loges spéculatives se sont séparées des loges opératives, donc des loges de métiers, mais les maçons acceptés gardèrent les rituels et les symboles des bâtisseurs qu'ils devinrent des outils philosophiques et spirituels, non pas pour construire des édifices, mais par extrapolation pour se construire soi-même et pour construire un monde meilleur et plus éclairé. À cette époque, donc, on était donc aux idées nouvelles, c'était la philosophie des Lumières. Les loges se répandirent dans une vingtaine d'années en Europe, en Amérique, en Russie et dans toutes les colonies européennes. Et il faut savoir qu'en France, les premières loges apparaissent dès 1723 et se diffusent largement à partir de 1740. De nombreuses petites villes ont des loges où on discute de liberté, on discute d'égalité, et où l'homme de progrès tutoie le noble éclairé et chacun porte l'épée en signe d'égalité. En 1773, les loges se rassemblent dans une fédération qui est la plus ancienne obédience dans notre pays, le Grand Orient de France, qui est né à cette époque. C'est à cette époque aussi que les deux principes réellement démocratiques sont définis. Premièrement, élection de tous les officiers et deuxièmement, représentation de toutes les loges dans une assemblée annuelle, le convent. À cette époque, bah, il fallait oser, hein, parce que c'était plutôt une époque totalitaire. Donc c'était tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Une légende tenace veut aussi que la maçonnerie ait organisé en sous-main la Révolution française. Là, c'est une idée qui s'est répandue dans les cercles hostiles à la maçonnerie, hein, pour stigmatiser donc l'association. Ce qui est faux, les maçons se retrouvent dans tous les camps, les camps des révolutionnaires et les camps des antirévolutionnaires. Mais le fonctionnement des loges, qui est basé sur la discussion et l'élection, a largement participé à la diffusion des idées nouvelles et elle y a joué, inconsciemment ou non, un rôle de premier plan. Ce qui est certain, c'est que dès le début, elle a inquiété les pouvoirs en place, d'où les nombreuses tentatives d'interdit, par le cardinal Fleury notamment, et une tentative aussi d'excommunication par le pape. Alors vient ensuite Napoléon. Napoléon qui favorise donc la maçonnerie tout en la surveillant étroitement parce que, je vous le rappelle, de tout temps, la maçonnerie a toujours été une société qui a inquiété le pouvoir en place. Donc Napoléon, tout en favorisant la maçonnerie, voit aussi en elle un moyen d'asseoir ses conquêtes en développant les liens maçonniques qui existent entre les différents États conquis, parce que il y avait des maçons dans tous les pays, donc ça permettait de tisser des liens plus étroits entre les personnes de ces pays-là. De nombreux maréchaux de l'Empire sont francs-maçons. Faut citer Masséna, faut citer Murat, Ney. Et le grand maître n'est autre que Joseph Bonaparte, le frère de l'empereur. Enfin bon, ça c'est tout dire comment la maçonnerie était noyautée à cette époque-là. Donc il n'y avait pas grand-chose à voir avec la liberté. Alors, il serait trop long, évidemment, de détailler l'histoire des événements qui ont conduit à la formation de la franc-maçonnerie moderne, parce que, bon, il y a eu des scissions, il y a eu des schismes, notamment le schisme qui a conduit la rupture avec la Grande Loge nationale de Londres, suite au retrait du Grand Orient de France de ne plus travailler au grand architecte de l'univers et donc de ne plus croire en Dieu et d'accepter les athées. Donc, ce qui a été le prétexte à la rupture avec la Grande Loge de Londres. Mais il faut savoir que la maçonnerie a été de tous les combats, de l'abolition de l'esclavage à la Commune de Paris. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est pour l'anecdote, il faut savoir que dans le musée du Grand Orient de France, rue Cadet à Paris, on voit encore les bannières des francs-maçons de cette époque-là qui ont été plantées sur les barricades et qui ont été trouées par les balles versaillaises. La maçonnerie s'est toujours placée... je vous l'ai dit qu'au départ, c'était la société elle avait pris modèle sur la société des bâtisseurs. La maçonnerie s'est donc toujours placée sous le parrainage symbolique de tous ceux qui firent progresser tout au long de l'histoire l'art de bâtir et les valeurs qui vont avec. Le progrès, l'émancipation, la construction de soi, la progression personnelle et par conséquent la progression de l'humanité. Alors actuellement, à l'époque moderne, au 20e siècle, 21e siècle, on compte une vingtaine d'obédiences, des obédiences masculines, des obédiences féminines ou mixtes, parmi lesquelles les plus connues, le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, le droit humain et la Grande Loge féminine de France. Enfin, parmi les francs-maçons célèbres, il faut citer l'enfant du pays qui est né à Badarou, Jean-Antoine Chaptal, donc le chimiste réputé et homme politique, initié dans une loge de Montpellier avant la Révolution. Il y avait aussi Louise Michel, Garibaldi, Voltaire, bien sûr, Mozart, Duke Ellington, Montesquieu, Guy Mollet, etc., etc. Donc ils ont été aussi les premiers à marcher sur la Lune parce que faut savoir que Neil Armstrong et Aldrin ont été les premiers astronautes à marcher sur la Lune, étaient francs-maçons. Eh bien, maintenant, voici « I'm beginning to see the light » de Duke Ellington, interprété par Ella Fitzgerald.
I never cared much for moon moonlit skies. I never wink back at fireflies, but now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe, but now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-wheel on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I never cared much for moonlit skies. I never wink back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Your lips are burning mine. I'm beginning to see the light.
Et qu'en est-il de la franc-maçonnerie lozérienne? Grande question. Alors, la première loge maçonnique est créée en Lozère en 1803. Sous l'Empire, elle s'appelait l'École des Bonnes Mœurs, c'est tout un programme. C'est une loge napoléonienne qui est constituée de militaires et de fonctionnaires de l'État. C'est en quelque sorte, je ne veux voir qu'une tête. Hein. Bon, c'était, on voit un peu la teneur de cet atelier. Alors, elle constitua le regard du pouvoir sur l'activité du département et elle disparut avec la disparition du Premier Empire, hein, tout simplement. Donc, exit cette première loge. Mais il faut attendre 1879 pour retrouver une activité maçonnique en Lozère. Sous l'impulsion du pasteur Frédéric Desmond, qui est une célébrité gardoise, une loge a été créée à Florac sous le nom de l'Union Lozérienne, loge d'inspiration républicaine et populaire. A transféré à Mende vers 1883. Elle participa très activement à l'installation de l'école publique en Lozère. Le contexte était très tendu à l'époque. Les loges militaient de façon laïque. Les membres de l'Union Lozérienne étaient des militants façon bouffeurs de curés et ils ont participé à la loi de la séparation de l'Église et de l'État en 1905 qui est, rappelons-le, une loi maçonnique. Alors, après la grande boucherie de 14-18, la loge a été saignée à blanc, comme beaucoup de loges, et disparaît vers 1920, faute de combattants, si je puis dire. Malgré tout, ça n'a pas empêché le régime de Vichy de donner la chasse aux francs-maçons dans le département, les maçons qui sont passés dans la clandestinité. On en retrouve beaucoup dans la résistance. En France, 2 à 3 000 combattants pour le Grand Orient. Et pour donner quelques chiffres, il faut savoir que 170 000 suspects ont été inquiétés. Et il y a eu 60 000 fichés, 989 déportés et 540 fusillés. Voilà pour le martyrologe du Grand Orient de France. Et aujourd'hui ? Alors, la franc-maçonnerie lozérienne, qui compte environ aujourd'hui une centaine de membres, a repris ses activités en 1971 avec la création d'une loge au Grand Orient, très active aujourd'hui, puis d'une loge affiliée à la Grande Loge Nationale de France. La maçonnerie se porte très bien en Lozère, puisque de 2006 et 2007, ont vu la naissance de deux autres loges, l'une masculine, l'autre mixte. Et en 2014, le Grand Orient réveilla l'Union lozérienne dans l'arrondissement de Florac. Mais la grande question est de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire en loge. Alors, la franc-maçonnerie n'est pas une secte, car effectivement, il est plus difficile d'y entrer que d'en sortir. Et ce n'est pas non plus une religion de substitution, puisqu'elle n'imite pas, elle ne rejette pas les religions, elle ne favorise aucun dogme et n'impose aucune croyance. La loge est d'abord un lieu de réflexion, de questionnement et de débat, alimenté par le brassage des générations et des diversités spirituelles et politiques. Il y a des maçons de toute sensibilité politique et dans tous les milieux. Et où il est possible de s'enrichir de la différence de l'autre. C'est ça qui est important. La loge est un endroit où il est possible de développer les idées sans se faire couper la parole ni s'engueuler. D'ailleurs, c'est interdit. C'est le seul endroit qui est comme ça. Dans les débats publics, tout le monde se coupe la parole, tout le monde s'apostrophe, et puis on aboutit à pas grand-chose souvent. À tous les faits de société sont discutés, toutes les sensibilités sont admises, sauf bien sûr celles contraires aux valeurs de la République, dont le Grand Orient se veut le défenseur intransigeant. Les membres du Front National sont d'ailleurs exclus séance tenante ou refusés, s'ils veulent rentrer. Traditionnellement à gauche, le Grand Orient est l'obédience la plus engagée dans le camp progressiste et est le créateur de l'Observatoire de la laïcité et à l'origine des réflexions sur la bioéthique. D'ailleurs, il faut citer quelques avancées sociales d'origine maçonnique. L'abolition de l'esclavage, bien sûr la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, mais plus récemment, plus près de nous, donc l'avortement, le planning familial et le mariage pour tous. Donc des lois progressistes. Mais sans faire de paranoïa excessive, il faut savoir que la franc-maçonnerie a toujours eu beaucoup d'ennemis qui ressurgissent actuellement. Les ennemis, c'était classiquement les monarchistes, c'était les libéraux, les mouvements sectaires. Les ennemis de la maçonnerie sont toujours les mêmes. Donc ce sont les sectes religieuses, les catholiques intégristes et les mouvements d'extrême droite qui reprochent pêle-mêle à la maçonnerie la République, la démocratie, les droits de l'homme, etc. etc. On a même vu récemment des manifestations devant des locaux maçonniques et paraître des bouquins et des articles tout à fait nauséabonds sur le fameux complot judéo-maçonnique. Donc, vigilance. Et pour terminer, il est normal que je vous propose un air de Mozart. Zerfließet heut, geliebte Brüder.
Zerfließet heut, geliebte Brüder, in Wahn und Jubellieder. Josefs Wohltätigkeit hat uns in deren Brust ein dreifach Feuer brennt, hat unsere Hoffnung neu gekrönt.
Donc on est toujours dans Alternative avec Philippe qui nous parlait de la franc-maçonnerie. On vient d'écouter Mozart. Moi j'avais quelques questions quand même par rapport à la franc-maçonnerie à te poser, Philippe. La première, c'est que tu parles de loge masculine, de loge mixte et même de loge féminine. C'est quoi le problème pourquoi vous séparez comme ça les genres?
Alors, non, on sépare pas les genres. Enfin bon, il y a des... au départ, la franc-maçonnerie était exclusivement masculine, puisque bon, il y avait quand même le côté ancien régime. La franc-maçonnerie est née sous l'ancien régime, donc il y avait... Les femmes comptaient pour quantité négligeable, malheureusement. Maintenant, c'est la tradition qui fait qu'il y a eu des loges masculines, des loges féminines, des loges mixtes. Le Grand Orient est devenu mixte après de longues séries de débats houleux. Est-ce qu'on doit accepter les femmes? Est-ce qu'on ne doit pas accepter les femmes? Mais finalement, c'était un peu un non-sens de se dire universaliste et puis de refuser 50% de l'humanité. Donc,
c'est bien ce qui me semble, ouais.
Donc c'est pour ça que maintenant le Grand Orient accepte les femmes.
Mais il y a toujours des loges exclusivement masculines.
Il y a des loges exclusivement masculines, bon, qui vont tendre à disparaître, je crois. Bon, c'est dans la nature des choses. Il y a des loges féminines qui ont été créées en réaction sans doute à la phallocratie masculine, bien sûr. Mais je pense que c'est... Moi, à mon avis, ça tendra à disparaître.
Bon, bah super. Ma deuxième question, c'est aujourd'hui, quand vous vous réunissez dans vos loges respectives, de quoi vous parlez, sur quoi vous travaillez?
Alors, on travaille sur... Il y a des milliers de sujets qui ont été abordés. Hein. Ça va de la laïcité, bien sûr. Donc, c'est une des préoccupations majeures en ce moment. La laïcité, le travail, des sujets de société qui sont... Voilà, le traité transatlantique a été abordé aussi.
D'accord.
Voilà, donc c'est des sujets d'actualité. Donc la bioéthique aussi, j'en ai parlé dans l'exposé. La bioéthique, le droit de mourir dans la dignité, enfin tous ces sujets-là sont abordés. Et je dirais que l'intérêt de travailler en loge... d'avoir une discipline de travail, c'est-à-dire de ne pas interrompre l'orateur quand il parle, de ne prendre la parole que trois fois sur le même sujet, ça permet que la parole circule, ça permet d'écouter l'orateur et ça permet d'avancer. Voilà, ce qui est difficile dans un débat classique, dans une association par exemple.
C'est vrai. Merci. Ma troisième question concerne le fait que le Grand Orient se veut le défenseur intransigeant de la République. Alors moi, je me pose la question, vous existiez avant la République, vous existerez sûrement après la République, parce que je ne doute pas qu'elle tombe un jour. Quel sera votre positionnement après la République ?
Alors, je te rappelle que en 1773, le Grand Orient a innové, hein, puisque il a décrété l'élection des officiers des loges, et puis la représentation de toutes les loges dans une instance unique. Donc c'était pour l'époque c'était révolutionnaire. Donc dans ce sens-là, la maçonnerie et le Grand Orient ont toujours été démocratiques. Hein. Bon, quand je te parle de république, faudrait plutôt parler de démocratie.
D'accord. Hein.
Mais de toute façon, la démocratie, c'est la république.
Ça dépend du point de vue, mais.
Ouais, mais bon. Et quand tu dis bon. Les valeurs de la République, c'est la laïcité, c'est la tolérance, c'est... Voilà, on est attaché aux valeurs de la République. Et en ce sens, la franc-maçon est républicaine.
D'accord, l'égalité...
Voilà, exactement. D'ailleurs, la devise maçonnique, c'est liberté, égalité et fraternité.
D'accord.
Qui est aussi la devise de la République française.
D'accord, bon, très bien. Eh bien, merci pour ces éclaircissements, Philippe. Tu voulais conclure, je crois.
Oui, voilà, donc c'était un trop bref aperçu de la franc-maçonnerie. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille le site suivant, www.ul6013.fr. Voilà, je vous répète, www.ul6013.fr. Et vous pouvez toujours retrouver l'émission sur le www.radiobartas.net. Salut !